France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Si je vous dis que la loi SRU est discutée depuis hier lundi à l'Assemblée, vous allez me dire pardon. Et alors, en quoi ça me concerne? Eh bien, la loi SRU, vous savez exactement ce que c'est. Ça vous concerne. C'est celle qui oblige les communes à 20 à 25% de logements sociaux. Elle a 20 ans, cette loi, et elle se poursuit avec ses travers aussi. Comment convaincre décidément les villes récalcitrantes qui préfèrent payer des amendes? Comment mieux équilibrer les logements sociaux? Nous parlerons aussi ce soir de la difficulté de se loger quand on est de la classe moyenne, qu'on veut vivre là où l'on travaille, parce que les prix ont explosé, parce que les logements de vacances prennent toute la place, parce que les citadins plus argentés ont quitté les grandes métropoles. C'est votre logement, votre maison, son prix, son coût, sa rénovation, sa révolution dont on parle ce soir avec Emmanuel Wargon, la ministre du Logement. Bonsoir à vous. Et merci beaucoup d'être avec nous ce soir. C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Jean-Pierre, c'est vous le premier. Vous êtes en Bretagne. On vous salue. Bienvenue.
Bonjour. Et merci pour vos émissions. C'est parfait. Voilà, moi, ce que je voulais dire, c'est que il est très compliqué pour les locaux en Bretagne. Je parle du Finistère, là où je vis. Il est très compliqué de se loger parce que les prix de l'immobilier ont flambé pour deux raisons. À mon sens, d'une part, la pression fiscale exercée sur les résidences secondaires me semble vraiment minime, ce qui fait que sur une commune comme la mienne, plus de 50% des logements sont occupés par des résidences secondaires, première chose. Deuxième chose, l'effet Covid a incité effectivement des habitants des grandes métropoles à venir s'installer, pourquoi pas, bien entendu, sauf que ça a fait gonfler en même temps le prix de l'immobilier. C'est-à-dire que le mètre carré en Bretagne a subitement eu des hausses hallucinantes, alors qu'auparavant c'était ça pouvait être accessible. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la population vieillit et n'est pas remplacé. Il y a un exode qui s'exerce vers les cités.
Parce que les jeunes ne peuvent pas s'installer là où ils travaillent, Jean-Pierre. C'est le sens de votre interrogation, j'imagine.
C'est ça, okay. Exactement ça.
Et je vous remercie beaucoup pour cette entrée en matière, parce que c'est une vraie bonne entrée en matière. On a eu l'occasion d'en parler déjà ici, Emmanuel Wargon, de cette ruée vers l'ouest, comme on le disait, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que les régions de l'ouest, mais enfin, en grande partie, qui sont concernées par ce genre de choses. Il y a deux questions en une. Un, comment on fait effectivement pour permettre à quelqu'un qui vit à Saint-Malo, dans le Finistère, n'importe où ailleurs, de pouvoir aussi s'y loger?
Bonsoir Fabienne et bonsoir Jean-Pierre. Merci pour la question. C'est vrai qu'on a des endroits dans lesquels, parce qu'il y a à la fois des touristes, des résidences secondaires et un attrait, notamment pour la côte, où ça commence à devenir très tendu. C'est vrai en Bretagne, mais c'est des discussions que j'ai aussi avec des élus et des habitants dans le Pays Basque, où c'est très fort.
Le Pays Basque, l'Aquitaine, la Charente.
C'est vrai en Loire-Atlantique, en Vendée, et c'est vrai aussi à la montagne, un peu moins, mais aussi, notamment dans les stations très touristiques de Haute-Savoie. La solution, en fait, elle est double. Il faut qu'on mobilise beaucoup d'outils. La première, c'est de continuer à construire du logement abordable. Donc, c'est vraiment d'arriver à sortir plus de logements sociaux, ce qu'on appelle aussi des logements intermédiaires, qui sont à des prix maîtrisés. Favoriser l'accession à la propriété, là aussi, avec des prix limités. Je pense, par exemple, à des nouvelles formes. Alors, c'est un peu technique, je suis désolée, ça s'appelle le bail réel solidaire. C'est quand vous n'achetez que la maison, mais pas le terrain, parce que ça permet d'acheter beaucoup moins cher. Ouais. Et par exemple, au Pays Basque, ça se développe. Donc, continuer à développer de façon très volontariste des logements abordables et rénover. Mais c'est deuxième chose à faire, je finis juste, c'est rénover, parce que si on arrive à rénover, y compris des logements vacants, y compris des logements qui sont pas attractifs pour l'instant, on augmente l'offre. Et en augmentant l'offre, on fait en sorte que les prix restent modérés. Puis enfin, il nous reste l'encadrement des loyers qu'on peut utiliser dans certains cas.
Alors, et on va venir aussi aux locations à courte durée, effectivement. Est-ce que ça veut dire qu'il vaut mieux construire pour que ces gens qui ne peuvent plus vivre intramuros, si je puis dire, puissent vivre pas loin dans de nouveaux immeubles qu'on aurait construits, ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de faire en sorte que ces logements qui ne sont habités que de manière très parcellaire ou pendant les vacances puissent revenir, et pas un moyen pour qu'ils puissent revenir en habitat 12 mois sur 12
hein. D'abord, il y a les logements vraiment vacants. Et ça, il y en a. Il y en a beaucoup dans les centres de petites villes, dans les centres villages, ou même carrément des corps de ferme. Donc là, il n'y a pas besoin de se demander si on a une concurrence entre ceux qui sont épisodiquement et ceux qui veulent vraiment y habiter. Parce que là, ce sont des logements qu'il faut vraiment qu'on réoccupe. Et pour ça, nous avons besoin d'aider encore plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Et la rénovation, on le fait déjà bien avec MaPrimeRénov, et on peut sûrement aller plus loin. Après, on a un vrai changement de mode de vie avec le Covid, on l'a vu, avec des gens qui cherchent à s'installer en dehors des grandes villes, et aussi des résidences qui étaient des résidences secondaires très peu occupées, qui deviennent des résidences beaucoup plus occupées. Donc à quel moment c'est encore de la résidence secondaire, ou ça devient une espèce de double occupation ? C'est à mon avis dangereux de s'engager sur une pente dans laquelle on dirait il faut vraiment réserver aux résidents permanents. Donc ça veut dire revanche, on peut mieux réguler les locations saisonnières pour qu'on n'ait pas des appartements ou des maisons qui ne servent plus qu'à la location saisonnière, alors qu'on aurait besoin d'avoir de la vraie location familiale ou pour des jeunes, par exemple, qui s'installent.
Alors, deux choses, avant qu'on en vienne effectivement à la location saisonnière, est-ce que, du coup, l'idée d'augmenter, parce que des fois, ça a été très exponentiel, plus de 60% la taxe foncière pour éviter qu'il y ait trop de résidences secondaires, est-ce que vous dites que c'est l'ultime solution, c'est pas vraiment la bonne solution, ou est-ce que quand même, si, c'est vraiment dans les outils,
c'est ça? C'est à la main des maires, hein, qui peuvent, dans toutes ces zones touristiques, décider d'augmenter plus les taxes sur les résidences secondaires, justement, voilà, pour essayer de rééquilibrer un peu, et aussi pour avoir des recettes complémentaires qui permettent de construire. Ça dépend vraiment localement, parce que il y a aussi des habitués, des familles qui reviennent régulièrement en résidence secondaire, pour lesquelles c'est aussi pas très facile à vivre. C'est pour ça que je pense que la solution, elle est quand même beaucoup dans le développement de l'offre, à la fois du neuf et de la réhabilitation. Et c'est comme ça qu'on répondra, j'espère bien, aux besoins de logement.
Est-ce que la crise sanitaire a vraiment rebattu les cartes du logement ? Est-ce que vous diriez ça, Emmanuel Wargon ? Est-ce que, du coup, il y a peut-être même une meilleure distribution, une chance même de redistribution du logement d'une manière différente ? Est-ce qu'il y a vraiment un jeu qui est aujourd'hui intégralement différent ?
Alors, on voit une différence entre les attentes, les aspirations, ce que répondent les Français dans les enquêtes, dans les sondages, le nombre de clics qu'ils font sur les grands sites immobiliers pour
regarder. Pendant le confinement, on clique beaucoup sur se loger, mais après, c'est une autre manière.
Et le passage à l'acte, qui est évidemment plus limité. Et ce qui est intéressant, c'est que le passage à l'acte, c'est rarement en réalité de Paris intramuros directement à la ruralité ou au littoral, c'est plutôt de Paris à la banlieue plus loin, ou à d'une ville moyenne à l'extérieur de la ville moyenne, c'est beaucoup à l'intérieur des régions en réalité. Mais c'est vrai qu'il y a aussi du passage à l'acte. Alors il y a des endroits dans lesquels c'est une vraie chance. Moi j'étais récemment dans le Cantal et en Aveyron, dans des endroits dans lesquels il y avait des biens à vendre depuis très très longtemps qui ne trouvaient pas preneur, et puis finalement il y a de nouvelles familles qui arrivent, et ça c'est quand même une bonne nouvelle pour tout le monde, et ça fait pas vraiment monter les prix. Donc il y a des cas particuliers comme la Bretagne, le Pays Basque où les prix s'envolent, mais il y a beaucoup d'endroits où en fait c'est une opportunité finalement que la population se répartisse mieux et que chacun trouve un logement qui réponde à ses attentes. Simplement, il faut l'accompagner pour que ça bénéficie à tout le monde, et encore une fois, pour bien équilibrer la partie construction et la partie rénovation, on a vraiment besoin des deux.
Et freiner la hausse des prix.
Freiner la hausse des prix.
On parlait tout à l'heure, ce sera pour clore la question de Jean-Pierre, des logements à courte durée. Il y a un amendement qui vient des communistes, je crois, dans cette loi qui est discutée depuis hier, et qui dit que dans les endroits qui sont tellement en tension, on devrait pouvoir abaisser l'autorisation de louer ces logements à 60 jours et pas 120 jours. La loi théoriquement dit 120, et beaucoup de gens prennent des libertés derrière avec cette loi, donc voudraient l'abaisser encore plus. Est-ce que c'est possible ça, et est-ce qu'on dit pourquoi pas effectivement dans les endroits qui sont terriblement en tension?
Non, moi je pense que c'est pas la bonne solution, parce que cette règle des 120 jours, elle s'applique aux gens qui louent pour avoir des revenus complémentaires sur leur résidence principale. Et donc de toute façon, si vous louez votre résidence principale, elle va pas devenir la résidence principale de quelqu'un d'autre. Ce qu'il faut qu'on régule beaucoup mieux, c'est les locations touristiques professionnelles, où les gens qui disent louer une résidence principale sur Airbnb, puis en réalité, c'est pas des vraies résidences principales, ce sont des logements faits pour ça.
C'est jamais des résidences, c'est fini. Enfin, l'esprit du début, c'était
les
100, ça, c'est
les
fini
120
depuis
jours,
très longtemps.
Ça s'applique aux résidences principales. En revanche, on a fait quelque chose de très fort. On a obligé les plateformes, en particulier Airbnb, qui a fini par l'accepter, d'exiger le numéro d'enregistrement sur les annonces pour les villes qu'ils mettent en place. Et le numéro d'enregistrement, c'est ce qui permet de tracer le propriétaire, et donc de savoir si c'est vraiment une résidence principale ou si c'est devenu en fait un business. Et si c'est devenu un business, les villes peuvent lutter contre, et notamment exiger une compensation, c'est-à-dire quelqu'un qui décide de louer mètre carré à titre professionnel, mètre carré en location familiale. Et ça, c'est beaucoup plus puissant. Ça a été une longue négociation avec Airbnb qui a fini par l'accepter. De toute façon, maintenant, c'est une obligation réglementaire. Ils sont en train de le faire commune par commune. Ils ont commencé avec Paris, ils ont fait le Pays Basque. Les prochaines, je crois, c'est Nice, pour permettre aux villes ensuite de faire les contrôles. Et je pense que c'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus efficace que la règle des 120 jours, qui en fait est déjà une règle qui s'applique à des biens qui sont occupés à l'année par des résidences principales.
Puisqu'il y a les numéros, qu'Airbnb a les numéros, que les plateformes, parce qu'il n'y a pas que cette plateforme...
Oui, bien sûr, c'est vrai pour Airbnb, c'est vrai pour toutes les autres.
C'est vrai pour les autres aussi. Est-ce qu'on a le droit de limiter le nombre de résidences? Puisque comme vous le dites, effectivement, ce sont celles des résidences qui sont vos résidences principales. C'est jamais le cas, mais ce qu'on sait, c'est qu'un propriétaire en possède 5, en possède 10 parfois.
Mais dans ce cas-là, il faut qu'il applique le droit de la location meublée, et le droit de la location meublée, il est d'abord fiscalement moins favorable, il est plus encadré, et par ailleurs, les villes peuvent dire que pour toute nouvelle location meublée, vous êtes obligé de louer aussi de la location de longue durée. Donc c'est comme ça que ça se régule, et les villes ont les moyens de le faire. D'ailleurs, la ville de Paris, mais d'autres, ont augmenté les contrôles pour ça.
Retour au standard, Emmanuel Vargon, c'est important, et changement de sujet aussi, grâce à vous, Vincent, vous êtes en Charente, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, bonsoir. Voilà, j'ai un pavillon locatif que je loue et je fais l'amélioration de l'habitat. Là, dernièrement, je viens de faire changer le système de chauffage, mazout. Je suis passé en pompe à chaleur. Et maintenant, j'ai monté des voltaïques pour faire la production d'électricité. Le problème, c'est que le voltaïque, quand c'est un pavillon locatif, ben, n'est pas défiscalisable. On peut pas le défiscaliser des charges locatives. Sauf si j'étais en SCI, en société. Malheureusement, mon bien immobilier que je loue, ben, c'est en nom propre. Et on m'a dit que c'était pas possible de défiscaliser le voltaïque. Alors, quand on parle d'énergie propre, pourquoi ça, on défiscalise pas?
Bah, je pense que vous avez raison, Vincent. D'abord, bravo de faire tout ce boulot sur le pavillon locatif et notamment sur la partie chauffage. J'espère que vous avez eu une aide sur le chauffage parce que normalement, maintenant, on aide les propriétaires bailleurs aussi, vous allez me dire. Mais en tout cas, c'est bien pour la planète et c'est bien pour les locataires parce que si vous avez changé le chauffage, ça doit être moins polluant et moins consommant après qu'avant. Donc ça, c'est vraiment important. Et après, pour la production d'électricité, bah, c'est une bonne remarque. On va regarder pour savoir comment on fait pour mieux aider les panneaux photovoltaïques et l'électricité qu'on auto-produit et qu'on auto-consomme quand on est dans un système locatif. Parce que c'est vrai qu'il faut pas opposer les propriétaires bailleurs et les propriétaires occupants. Donc, je prends l'alerte, on regardera.
Eh ben, bravo.
Et du coup, vous avez été aidé pour le changement de chauffage?
Non, parce que j'ai trouvé un artisan qui, sans les aides, revenait au même tarif qu'avec les aides. Ah. Bah, ça, il n'y a pas de problème, ça rentre en charge locative, pas de problème.
Mais tant mieux.
C'est le voltaïque qui ne rentre pas en charge locative.
D'accord.
Parce que je suis en nom propre.
Eh ben, je vais regarder.
C'est une entreprise de FENR et on a fait le tour de tout. L'agence immobilière qui me gère la location m'a dit, mais non, je peux pas le passer en charge.
Ok.
Eh ben, écoutez, voilà, on vous rappellera, Vincent, si grâce à vous, on peut faire défiscaliser les panneaux, ce qui, par les temps qui courent, exactement, semble frapper au coin du bon sens. On est sur le même sujet, du coup, on rejoint Eric en Loire-Atlantique. Décidément, tout le monde est dans l'Ouest ce soir. Bonsoir, Eric.
Bonsoir Fabienne, et bonsoir à toutes et à tous.
Allez-y, Eric.
Voilà, moi, c'est à propos de la rigidité absurde et souvent contre-productive des critères bancaires. J'habite dans une maison à Saffré, entre Nantes et Rennes, qui est une passoire énergétique. Il me reste 70 000 euros à rembourser. J'ai eu un dossier de subvention de 45 000 euros pour faire une rénovation cohérente. Il fallait rajouter 25 000 euros pour que ce soit un bon dossier, une bonne rénovation. Ma banque a refusé au prétexte que je ne passais pas dans les critères, alors que depuis 11 ans, je paye sans aucun problème, sans aucun incident. Et du coup, ben voilà, je chauffe deux pièces, il fait froid dans les autres pièces de la maison, je paye 130 euros d'électricité par mois. Et c'est vraiment extrêmement fatigant, stressant et agaçant, quoi.
Mais est-ce que vous avez été chercher du coup, Eric, et qu'est-ce qu'on vous a répondu? Parce que j'imagine que vous l'avez fait du côté de MaPrimeRénov, etc., et tous ces outils et mécanismes aujourd'hui.
J'ai tout eu par une association qui s'appelle Solia, en Loire-Atlantique, qui bosse avec l'ANA, par exemple. Mmh. Et donc j'avais droit à 45 000 euros, ce qui est quand même important. Et la banque n'a pas voulu modifier mon prêt.
Pour payer le reste à charge, en fait.
Alors pourtant, je suis à 3,30. Ouais. Ils auraient pu baisser le taux, ils auraient pu allonger de 2 ans, et ça passait. Mais ils m'ont dit, monsieur, vous n'êtes pas dans les critères, donc nous ne pouvons pas.
Alors ça, moi, je veux vraiment réagir. Merci beaucoup, Eric, pour ce témoignage. Je voudrais réagir sur deux aspects. Le premier, c'est 45 000 euros d'aide. C'est des aides importantes, donc je voudrais vraiment saluer ça, parce que il faut vraiment que tout le monde sache qu'il y a maintenant de quoi financer du côté État des vraies aides à la rénovation, y compris sur des montants élevés de travaux. Et le deuxième, c'est que c'est absolument pas normal que la banque vous ait répondu ça. Normalement, ça peut être financé soit en prêt immobilier, soit en prêt à la consommation, soit en éco-prêt à taux zéro pour la rénovation. Je sais pas quelle est votre banque, mais moi je veux bien qu'on les contacte, parce que c'est complètement aberrant, cette situation. Et par ailleurs, on lance un nouvel outil de prêt début d'année prochaine, et je vais faire la pub pour les deux réseaux qu'ils lancent, la Banque Postale et le Crédit Mutuel. Et si les autres veulent le faire, je ferai tout autant leur pub. Parce que c'est un prêt qui se rembourse au moment de la mutation, au moment de la vente ou de la transaction. On ne paye que les intérêts, on ne paye le remboursement du principal qu'au moment où on vend le bien. Évidemment, quand vous faites des travaux, si vous faites 70 000 euros de travaux avec 25 000 euros de prêt, vous allez vendre la maison le jour où vous la vendrez, le plus tard possible. Vous allez retrouver vos 25 000 euros sans problème. Donc la banque prend zéro risque, il y a un fonds de garantie de l'État. Donc c'est pas normal, et les banques n'arrêtent pas de nous dire qu'elles payent tous les prêts à la rénovation. Donc moi, je suis très curieuse, hors antenne, qu'on s'intéresse à ce dossier et qu'on appelle la banque.
Après, Emmanuel Wargon, il y a des choses qui reviennent très souvent lorsqu'on fait des sujets ici même au téléphone autour des rénovations énergétiques, etc., c'est que le reste à charge est quand même un souci pour beaucoup de gens qui entament les rénovations. Ce qu'on nous répond à chaque fois, c'est oui, il faut tout faire d'un coup, parce que sinon ça n'a pas de sens. Ce qui est une réalité et qui permet de faire baisser la facture à moyen et long terme, évidemment. Donc oui, c'est une bonne chose. Sauf qu'il faut avancer, et en général, il peut y avoir parfois un gros reste à charge, alors, comme c'est le cas par exemple ici.
Alors moi, je le comprends tout à fait, et c'est pour ça qu'on s'est battu pour ce nouveau prêt qui s'appelle le prêt Avance Rénovation. En fait, vous ne payez que les intérêts. Actuellement, les taux d'intérêt sont très bas. Vous ne remboursez pas le principal.
Le taux d'intérêt immobilier est très bas. Mais oui, si on fait un...
C'est basé sur les taux immobiliers.
On est d'accord. Okay.
Et du coup, vous payez le reste à charge quand vous vendez le bien, uniquement. Ou, si on examine le cas de figure, au moment de la succession, désolé d'imaginer cette hypothèse, mais malheureusement, elle se produit aussi. Et du coup, ça veut dire que le fait d'avoir à payer l'amortissement des travaux, ça ne pèse pas mois après mois sur l'équilibre de la famille. Donc c'est assez basique en réalité. Ça n'était pas possible pour des raisons de droit bancaire. On a levé les problèmes de droit bancaire, on a trouvé une garantie État pour les cas improbables où on aura besoin. Et je pense que c'est une bonne solution pour le reste à charge, parce que là, par définition, quand vous faites des travaux, vous avez une économie sur votre facture. Et pour payer les intérêts, l'économie sur la facture, elle suffit largement. Et après, sur ce que vous disiez, Fabienne, sur tout faire d'un coup, moi, je suis très pragmatique sur ce sujet. Je suis pas forcément alignée avec, par exemple, les écologistes qui disent que seules les rénovations globales sont intéressantes.
Pas seulement, hein. Il n'y a pas que les écolos qui disent voilà. Ça. Mais effectivement, ce qu'on dit aux auditeurs en général, c'est vraiment ça. Il vaut mieux le faire d'un coup, parce que c'est comme ça que la facture aura vraiment du sens et baissera.
C'est mieux. Mais pour voir beaucoup de familles un peu partout en France qui bénéficient de MaPrimeRénov, il y a beaucoup de cas dans lesquels c'est fait un peu petit à petit, et c'est bien aussi. Vous commencez par changer la chaudière parce qu'elle vous lâche, ou vous commencez par faire l'isolation parce que c'est le plus urgent. Et puis ça se passe bien, vous vivez mieux, un an et demi ou 2 ans après, vous vous dites « je peux faire l'étape d'après ». Et vous faites l'étape d'après. Et c'est bien aussi, c'est mieux quand on peut tout faire en une seule fois. Mais il faut pas se dire, si je peux pas tout faire, je fais rien. Parce qu'en commençant, souvent, on rentre dans un parcours de rénovation et finalement, ça s'étale assez naturellement sur quelques années.
Une dernière question autour de ce sujet, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent aussi sur les logements sociaux et HLM. C'est vous, Martial. Allez-y, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu.
Oui, merci de prendre mon appel. Bonsoir, Madame la Ministre. Très heureux de pouvoir vous parler. Voilà, je suis locataire d'une maison à Limoges. Ça fait 14 ans. 14 ans, une maison qui date de 1980. Voilà, mon propriétaire, bien gentil, très courtois, mais aucune rénovation, c'est-à-dire au niveau isolation du toit, au niveau des fenêtres, des portes, etc. Donc il n'est pas obligé, il est en SCI, ses enfants touchent royalement le montant des loyers. Il y a au moins, j'ai calculé à peu près, plus de 100 000 euros de loyer, et sur ça, eh bien, rien, zéro.
Obliger voilà. Les bailleurs, Madame la Ministre.
Oui, alors ça c'est une grande question, et on a fait un mouvement important dans la loi climat, là, il y a 6 mois. En gros, on fait 2 choses. D'un côté, on ouvre les aides d'État aux bailleurs. Au début, les aides ne fonctionnaient que pour les propriétaires occupants et on s'est rendu compte que c'était vraiment une erreur. Donc depuis l'année dernière, les aides, notamment MaPrimeRénov', sont aussi ouvertes aux bailleurs. Et puis surtout, dans la loi climat et résilience, on a décidé que les pires étiquettes, donc les étiquettes G en 2025 puis F en 2028, seront interdites à la location, ce qui veut dire pour les locataires qu'ils pourront exiger de leur propriétaire des travaux.
Et ce qui fait dire à la FNAIM, c'est beaucoup trop tôt, on n'a pas le temps.
Exactement. Donc les professionnels de l'immobilier sont pour certains inquiets parce qu'ils trouvent que ça vienne vite. Mais moi je trouve, Martial, que votre témoignage, il est intéressant aussi. C'est-à-dire, on le fait pour Martial et pour toutes les personnes qui sont, y compris dans des situations de précarité énergétique, qui ont aussi besoin qu'on les sorte de là. Et c'est pour ça qu'il faut suffisamment d'aide et suffisamment d'accompagnement pour que les propriétaires soient pas coincés. Donc ça a été voté l'année dernière, le premier jalon est en 2025, puis en 2028. Et c'est aussi important de dire maintenant, voilà, il y a une responsabilité du propriétaire vis-à-vis de son locataire pour pas laisser son locataire dans une passoire thermique. Et bien sûr, moi je travaille au quotidien avec la FNAIM et les autres réseaux.
Donc les dates, elles restent.
Elles ont été votées dans la loi. Ouais. Alors après, ce qu'une loi fait, une loi peut toujours le faire évoluer. Et moi, je suis aussi pragmatique si un jour, il y a besoin de donner un petit peu de mou au système. Mais là, il faut plutôt alerter les propriétaires sur le fait que c'est le moment de se mettre à faire des travaux pour leurs locataires.
Est-ce qu'il peut y avoir une différenciation en fonction des zones? Je pense à des zones qui peuvent être très historiques, par exemple, ou même à Paris, c'est plus difficile de mettre un haussmannien qui est en G à une note qui irait entre D, E ou F, au moins, enfin pas F d'ailleurs, parce que ce sera interdit aussi, donc au moins D, E, c'est plus difficile quand on a un haussmannien ou un immeuble qui a été construit dans les années 70,
bien
80
sûr.
Et encore moins 2000.
D'abord, c'est plus difficile en copropriété qu'en maison individuelle.
Par
la
ailleurs,
Martial, je crois que votre témoignage à Limoges, c'est bien une maison, donc là, a priori, c'est facile à faire parce que le propriétaire est tout seul et peut prendre la décision, et encore une fois, il peut bénéficier du même genre d'aide que celle dont parlait Eric il y a 5 minutes. En copropriété, on sait que c'est forcément beaucoup plus long, et si évidemment, en plus, on a des contraintes d'architecture, c'est plus difficile. En copropriété, on a dit qu'un propriétaire qui, de bonne foi, demande des travaux à la copropriété, vote les travaux, et puis finalement, la majorité des copropriétaires ne les votent pas. Ce propriétaire-là ne peut pas être mis en cause. Mais on a par ailleurs commencé à prévoir un plan de travaux pluriannuel dans les copropriétés. Parce que là, que les occupants soient propriétaires ou locataires, il faut que les copropriétés elles-mêmes commence à planifier des travaux. Et donc l'idée, c'est qu'elles aient un diagnostic de la copropriété pour qu'elles aient une visibilité sur ce qu'elles ont à faire et qu'elles payent un peu chaque année un fonds travaux qui permettra, le jour où elles déclenchent les travaux, que ce soit un peu moins difficile.
Parce que vous voyez, on a Benoît en Normandie qui dit « J'habite dans une zone classée au niveau du patrimoine et quand j'ai voulu faire une isolation par l'extérieur, ça a été refusé à cause de ça. » Donc comment on améliore les logements dans ces conditions-là?
Dans ce cas-là, si l'isolation par l'extérieur n'est pas possible, on peut faire de l'isolation par l'intérieur. Alors ça consomme un petit peu de surface de vie à l'intérieur, donc c'est plus difficile. Mais maintenant, il y a des techniques qui sont moins épaisses que ce qu'on ferait par l'extérieur. On a même de la peinture isolante dans certains cas. On peut faire les combles, on peut faire le plancher, on peut s'intéresser au système de chauffage, évidemment, pour faire les fenêtres. Donc, c'est un peu plus difficile, ça peut être un peu plus coûteux, mais il y en a quand même, heureusement, des solutions techniques.
Allez, retour au standard et changement de sujet. Grâce à vous, Jean-Paul, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir, Jean-Paul.
Bonsoir Madame la Ministre. Ok, moi, ça fait 10 ans que je renouvelle ma demande de logement. Pendant 10 ans, J'ai fait 3 DALO. J'ai écrit au président de la République, j'ai pas de logement. Et j'ai même pas des propositions. C'est ça qui est bizarre. Même l'assistance sociale n'arrive pas à me dire non, on peut rien faire pour le logement. Le maire m'a dit il peut rien faire pour le logement. Je sais pas qui peut faire, qui peut me proposer un logement. Moi, je suis retraité, j'ai 1400 euros à la fin du mois.
Merci, oui. Merci
Jean-Paul.
Vous
êtes où, dans quelle région de France?
Je suis hébergé chez un cousin et à chaque fois, je renouvelle ma demande.
Mais votre demande, vous la faites où en fait, à Paris ou en province?
À la mairie.
Oui, mais dans quelle ville, Jean-Paul, dans quelle ville? Ah, dans la région parisienne, d'accord.
Bonneuil.
D'accord, ok. Bon. Alors, le cas particulier de Jean-Paul, réellement, évidemment, on le connaît pas précisément, mais j'ai cru comprendre que sur les listes d'attente, il y a 1 700 000 personnes, toujours, presque 2 millions de personnes, toujours, pour ce qui est des logements HLM. Donc, on va parler de ces 20% obligatoires, mais à un moment, l'entonnoir, décidément, et depuis 20 ans, y compris que la loi SRU existe, depuis 20 ans, c'est le même entonnoir. Pas loin.
D'un côté, la loi SRU, elle a permis de construire à peu près la moitié des logements sociaux qui ont été construits depuis 2000. On a construit 1,8 million de logements sociaux et grâce à la loi SRU, en poussant les communes à construire, on en a construit à peu près 900 000. De l'autre, c'est vrai, on a presque 2 millions de familles qui sont en attente de logement social. Ça peut effectivement atteindre 10 ans en région parisienne, c'est pour ça que je demandais où. C'est heureusement plus rapide hors de la région parisienne, même dans les autres métropoles, c'est plus rapide. Mais néanmoins, il y a des endroits où c'est vraiment très tendu. Donc la solution, c'est de continuer inlassablement à construire. C'est bien la raison pour laquelle je suis à l'Assemblée nationale cette semaine pour défendre le fait que la loi SRU s'installe et devienne permanente, ce qui n'était pas le cas puisque normalement elle s'arrêtait en 2025. Et c'est la raison pour laquelle on soutient massivement le monde du logement social pour essayer de produire plus de logements sociaux. Et on ne va pas assez vite par rapport aux demandes. Après, ceux qui attribuent, c'est d'un côté l'État, mais qui essaye d'attribuer aux plus prioritaires des plus prioritaires. Donc, monsieur a dit qu'il était DALO. C'est vrai que les gens qui ont le droit opposable au logement, normalement, sont relogés plus vite. On essaye aussi de loger des gens en sortant de l'hébergement d'urgence, mais aussi des femmes victimes de violences, des familles monoparentales, enfin, toutes les situations de détresse qu'on peut imaginer.
On connaît cette difficulté, mais je vous avais dit aussi, madame la ministre, vous avez dit même que vous chercheriez à loger notamment ce qu'on a appelé pendant la pandémie les travailleurs essentiels, c'est-à-dire pour qu'ils puissent effectivement vivre là où ils travaillent de manière essentielle, mais où est-ce qu'on les met ces pauvres gens, en plus de ces 2 millions-là qui attendent déjà un logement aujourd'hui?
Dans l'équilibre de l'accès au logement social, il y a ceux qui sont les plus en difficulté, mais il y a heureusement aussi des salariés, des classes moyennes qui accèdent toujours au logement social. Et parmi ces salariés, c'est vrai que je souhaite qu'on fasse vraiment un effort pour les travailleurs essentiels. Après, au-delà du logement social, c'est pour ça que j'ai lancé un nouveau dispositif fiscal qui s'appelle Louer Abordable, qui propose aux propriétaires de baisser les loyers, de louer moins cher que le prix du marché avec une aide fiscale qui compense, pour qu'on ne dépende pas que du logement social, mais qu'on arrive à avoir une offre plus importante de logements abordables entre le logement social par lui-même, ce qu'on appelle le logement intermédiaire qui est aussi payé par des grands investisseurs et qui est moins cher que le marché, le logement abordable où ce sont des particuliers, un peu sur le principe de l'amendement Coluche, vous décidez de louer moins cher et puis du coup vous avez une aide fiscale qui compense, justement pour augmenter l'offre et pouvoir répondre à Jean-Paul et à tous ceux qui cherchent un logement et qui n'arrivent pas à trouver à un prix abordable.
Vous avez sûrement lu cette étude de la Fondation Abbé Pierre qui a été faite et qui dit que oui, la loi SRU a permis de construire des logements sociaux, ça vraiment c'est une réalité dans certains quartiers, mais que finalement on en a construit d'autres aussi dans d'autres quartiers pour favoriser une forme de mixité, donc des quartiers je vais le dire entre guillemets un peu plus chic, et résultat des courses, ce que dit la Fondation Abbé Pierre, c'est qu'on se retrouve avec des gens plus aisés qui sont dans ces logements sociaux qui sont un peu plus chics, et finalement les autres qui sont de plus en plus pauvres et qui restent de plus en plus pauvres et qui restent dans les premiers logements, et au fond, ni diversité ni mixité, en tout cas pas celle qui était attendue.
En tout cas, c'est aussi pour ça que je me bats pour cette loi SRU, parce que cette loi SRU, c'est aussi construire des logements sociaux dans des communes un petit peu plus chics.
Exactement.
Et demander à chacune des communes de prendre sa part et d'accepter d'accueillir des logements sociaux. Après, on a effectivement un travail complémentaire pour savoir qui va dans quels logements sociaux, une fois qu'on en a suffisamment, et pour faire en sorte qu'il y ait une vraie mixité réelle et pas seulement une mixité théorique. Et ça aussi, la loi le renforce. Mais c'est un combat permanent. Et je rappelle que la construction de logements, l'État fait le cadre, les aides fiscales, mais ce sont les maires qui signent les permis de construire. Et donc l'État peut inciter, peut proposer, peut faciliter, mais in fine, c'est une décision locale.
Et est-ce qu'il ne peut
pas... Et il y a une vraie contradiction entre des maires qui, d'un côté, aimeraient pouvoir répondre à leurs habitants ou aux familles, etc., ou aux jeunes qui veulent rester sur la commune, mais les mêmes maires qui sont très prudents quand ils signent des permis de construire et qui hésitent beaucoup avant de savoir s'ils acceptent un nouveau programme, un nouvel immeuble qui va faire 3 étages ou 4 étages ou peut-être 5.
Et ceux qui sont clairement récalcitrants.
Et ceux qui sont carrément récalcitrants.
Parce que ces villes-là, elles sont pointées du doigt, parce qu'on connaît les zones qui sont en très forte tension, y compris parce que certains maires sont récalcitrants. Comment on fait pour, pour ne plus contourner justement ça ?
Il n'y a pas tant de maires qui sont vraiment récalcitrants, c'est-à-dire pour discuter beaucoup avec beaucoup de maires. La majeure partie des maires avec lesquels je discute sont plutôt favorables au logement social, trouvent que les obligations sont trop fortes et parfois trouvent que c'est difficile de faire face à toutes les contraintes. Il y a quelques maires qui disent vraiment... Moi, je préfère encore payer une amende. Oui. C'est quand même relativement rare. Et moi, j'essaye plutôt de commencer par aider tous ceux qui veulent bien y aller. Mais après, on a maintenu la loi, on maintient des sanctions. On a environ 250 communes aujourd'hui qui sont sanctionnées.
Mais est-ce que le préfet peut préempter, en fait ? Est-ce qu'un préfet a le droit de préempter, désormais ?
Cette année, depuis le dernier bilan de la loi, nous avons transféré le droit de préemption et la signature des permis de construire des maires aux préfets dans une 50aine de villes dans lesquelles vraiment il ne se passait rien. Et donc, on peut aller jusque-là pour essayer de sortir plus vite des programmes.
Alors, que disent les promoteurs immobiliers ? En voilà un qui nous appelle et qui est avec nous. Bonsoir Thomas.
Oui, bonsoir à tous.
On vous écoute.
Merci de prendre ma question. J'appelais en effet car je suis promoteur sur Bordeaux. Et comme je disais, au-delà d'être un méchant promoteur qui détruit les arbres, on est avant tout humain. Et le social, on veut en faire. Et de l'écologie également. Simplement, je me posais la question au niveau des zones. Je pense que Madame la Ministre saura évidemment de quoi je parle. Bordeaux, en l'occurrence, est en zone B1. Contrairement à Paris qui est en zone A, et les bailleurs sociaux achètent à des prix qui sont fixés par rapport à la zone. Et en zone B1 à Bordeaux, c'est 2 050 € le mètre carré. Et ma question est toute simple. Si vous parliez tout à l'heure, Madame la Ministre, de prix maîtrisés, chose avec laquelle on travaille nous au quotidien, comment peut-on faire des prix maîtrisés à l'acquisition alors même que nous, faiseurs des logements sociaux dont les villes ont besoin, on ne peut tout simplement pas réaliser les logements sociaux puisqu'ils nous coûtent beaucoup plus cher que quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup plus cher que le prix qu'ils nous coûtent en partant du principe que le foncier à la base est pas maîtrisé quand nous l'achetons. Donc on l'achète évidemment ultra cher et on se retrouve, comme je disais à votre accueil, on se retrouve en fait à construire aux seuls endroits où c'est possible de le faire, c'est-à-dire en périphérie des villes, là où le foncier est moins cher, et on recrée malgré nous des ghettos.
Avant de répondre, Madame la Ministre, B1, A1, il faut que vous nous expliquiez juste en deux mots ce que ça veut dire.
Oui, bien sûr. D'abord, je voudrais dire que les promoteurs, on en a besoin aussi, parce que dans ce moment, on a besoin de construire, on a besoin de promoteurs pour le faire. Et on a maintenant des normes assez strictes environnementales de construction qui font que maintenant, on sait construire en protégeant l'environnement, on sait construire en bois ou en béton bas carbone. Et donc, la construction pas très écolo, elle est plutôt derrière nous et maintenant, elle va l'être de plus en plus. Après, la question, c'est une question technique pour différencier les aides à la fois fiscales et au monde du logement social. On a divisé le territoire en plusieurs zones et probablement que dans les mois et les années qui viennent, il faudra qu'on se réinterroge sur ces zonages parce que la crise Covid est passée par là, l'attractivité des villes a changé, et ces zonages sont un peu anciens et correspondent plus totalement à la réalité. Et il y a des endroits dans lesquels on a laissé la main plutôt au local, aux élus et aux préfets pour améliorer les zonages, c'est le cas en Bretagne, et probablement que demain il faudra qu'on laisse beaucoup plus d'adaptation et de souplesse sur ce sujet.
C'est intéressant ce que dit Thomas, parce qu'effectivement, ça dit, c'est ce qu'on disait sur certains logements qui peuvent être construits dans des endroits un peu plus chics et qui finissent par être occupés finalement par des gens qui ont un pouvoir d'achat supérieur, et ceux qui n'en ont pas, et ceux qui s'appauvrissent, qui décidément restent dans les périphéries, là où, par exemple, des gens comme Thomas, visiblement, n'ont pas d'autre choix que de construire leur logement.
Alors, après, il y a des endroits qui étaient des périphéries et sur lesquels on a eu des belles opérations d'aménagement et qui vont devenir des morceaux de ville à part entière, qui vont devenir très attractifs. Et à Bordeaux, il y a beaucoup d'opérations de ce type, notamment toutes les opérations Euratlantique qui étaient sur des anciennes friches SNCF polluées, qui étaient en bord de ville, qui en fait sont pas loin du centre-ville. Et c'est vrai à Bordeaux, c'est vrai dans des tas de villes. Donc il y a heureusement des endroits dans lesquels on est à proximité de la ville, il reste encore du foncier, on peut construire et on n'est pas condamné à reléguer les gens qui vont habiter là, loin de tout. En région parisienne, on a le métro du Grand Paris qui arrive et c'est une très très belle opportunité pour construire à des endroits qui vont être bien reliés. Évidemment, construire sur des friches, ça coûte souvent plus cher parce que ça a déjà été utilisé, donc ça a déjà été pollué, donc il faut dépolluer. Et l'État accompagne aussi à travers une aide qui s'appelle le fonds friche, qui nous permet de sortir des opérations qu'on ne saurait pas financer autrement. Donc parfois, il y a une solution par le haut, où on arrive à faire des choses bien, bien reliées au centre-ville, et c'est simplement un nouveau quartier qui sort de terre, et c'est pas un quartier au sens péjoratif du terme, c'est un nouvel endroit où bien habiter. Mais effectivement, ça dépend aussi de la qualité du programme. Par ailleurs, de nos jours, on fait rarement 100% de logement social. En général, les programmes immobiliers qui sortent, ils mélangent du logement social, de l'accession à la propriété, du logement locatif, et quand c'est bien fait, c'est impossible de dire que tel bâtiment accueille plus ou moins telle ou telle population. Ça se voit pas parce que la mixité est réelle.
Je vous entends construire beaucoup, construire plus, effectivement, et avec toujours ce paradoxe où on nous dit qu'il faut empiéter le moins possible désormais sur les terres, avoir beaucoup plus de regard en tout cas qu'on a pu en avoir précédemment. C'était de là que venait, entre autres, la fameuse phrase que vous aviez prononcée sur la maison individuelle est un non-sens écologique et qui avait tellement fait parler.
Celle-là, je ne l'ai pas prononcée, en fait, Fabienne, parce que c'était dans une version initiale du discours.
C'est vrai. En tout cas, voilà.
Mais j'ai dit on n'allait pas pouvoir se reposer que sur les pavillons dans des lotissements très loin des centres-villes et qu'il fallait qu'on invente d'autres formes pour l'avenir.
On est dans ce paradoxe-là, en fait. Construire plus, construire toujours, parce qu'il y a des besoins de logement, parce qu'on voit bien que les gens sont en train de bouger, notamment des métropoles, des grosses métropoles vers des zones un peu plus rurales, et en même temps, derrière, un autre discours qui dit attention à la préservation de la nature, à des choses comme ça auxquelles on ne faisait absolument pas attention.
En fait, les Français, ils aspirent, de ce que je comprends, et de tous mes déplacements, toutes mes rencontres, à deux choses, à la fois de la tranquillité, de l'espace et une forme d'habitat dans laquelle ils sont protégés, donc plutôt une maison, et de l'autre, des services. Un accès rapide aux transports en commun, des services, des commerces, un peu de lieux de convivialité, pas trop d'isolement. Et les lotissements très éloignés des villes, et on a aussi des personnes qui vieillissent dans ces lotissements et qui se disent « je vais pas pouvoir y rester parce que pour aller à la pharmacie, il faut prendre la voiture, pour aller acheter le pain, il faut prendre la voiture, il y a rien autour, les voisins sont plus ou moins partis, les maisons sont parfois mal isolées dans ces lotissements ». Donc le paradoxe auquel il faut qu'on réponde, c'est cette demande de qualité qui s'exprime dans une demande de maison, mais il y a plein de formes possibles, les maisons classiques, les maisons collées les unes avec les autres, avec qui ont néanmoins un jardin, des tout petits immeubles, des immeubles autour d'un parc. Enfin, il y a plein de solutions possibles. Et à chaque fois, réussir à trouver le bon niveau de service et d'accompagnement qui va avec. Et moi, j'étais en Aveyron il y a quelques temps et je voyais le maire d'une ville de 5000 habitants qui me disait, moi, les jeunes couples qui viennent et qui me demandent quelque chose, je leur dis, j'ai plein de solutions, la maison de centre-ville et celle-là, elle peut aussi avoir un jardin. Donc, avant de permettre de la construction sur un nouveau terrain, je regarde aussi ce que j'ai.
Merci beaucoup.
Merci à vous, c'est passionnant.
L'heure tourne et vous avez un peu de pain sur la planche parce qu'il y a deux ou trois personnes que vous avez promis de rappeler, donc on saura vous le rappeler aussi.
Je vais regarder les panneaux photovoltaïques pour Vincent.
Par exemple, merci beaucoup, merci vraiment, merci pour vos très nombreuses questions. Portez-vous bien.